1 Corinthiens, on va débuter le chapitre 3. On va lire ce matin des versets 1 à 8. Et je vais prier pour introduire le message. Seigneur, que serait-il de nous si tu n'étais pas là, Seigneur ? Où serions-nous ? À la plage ? Dans notre lit ? Ou ailleurs ? Et Seigneur, tu as voulu que nous soyons ici ce matin et c'est une grâce. Seigneur, nous voulons profiter de ce moment pour t'écouter. Nous voulons lire ta parole, Seigneur, et sonder les Écritures ensemble pour te chercher, pour écouter ce que tu as à dire pour nous, Seigneur. Que soit toi-même, Seigneur, à présent qui nous parle, en Jésus-Christ. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, on va dire versets 1 à 8. Mais auparavant, je vais faire un petit rappel pour qu'on sache un petit peu, ça fait 6 semaines, 5 semaines qu'on prêche dans 1 Corinthiens. Donc je fais juste un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu. Donc la première lettre, les deux premiers chapitres, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. On peut les découper en trois parties. Première partie, c'est versets 1 à 9. Paul salue l'Église et les chrétiens. Toujours tradition de Paul de saluer au nom du Seigneur. Et ensuite, il leur rappelait les fondements de leur foi, à savoir qu'ils avaient été établis sur Jésus-Christ. Donc, ils avaient à présent la parole et la connaissance suffisantes pour ne plus vivre à la corinthienne, si vous vous rappelez la prédication d'Antoine. Ensuite, versets 10 à 16, venait le moment des reproches. Et là, Paul leur disait, vous êtes divisés, il y a des divisions parmi vous. Et vous vous rappelez, c'est parce qu'il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis d'Apollos. Et on avait vu qu'il y avait deux problèmes chez eux, c'était l'orgueil et le fait qu'ils sortaient des textes. Ils extrapolaient, ils allaient chercher dans la philosophie, la sagesse humaine, des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Et au lieu de se concentrer sur ce qui était écrit, hop, ils allaient chercher ailleurs, avec d'autres questions, etc. On avait vu que c'était leur problème. Et ensuite, des versets 17 jusqu'à la fin du chapitre 2, là, Paul comparait la sagesse du monde avec la sagesse des hommes. Sagesse des hommes qui était une folie aux yeux de Dieu, et sagesse de Dieu qui était la sagesse parfaite manifestée par la mort de Christ sur la croix et la prédication de cette mort. Et cette sagesse de Dieu, pour le monde, était une folie. Voilà. Donc à présent, on arrive ici au chapitre 3, et Paul va reprendre les griefs, la liste des griefs contre l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une nature toute humaine? Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Alors on va s'arrêter là ce matin. On va voir trois choses ce matin. Premièrement, il y a les risques de se conduire selon la chair. Deuxièmement, il y a les signes d'une conduite selon la chair. Et troisièmement, c'est comment ne pas se conduire selon la chair. C'est bien l'objet de la parole de Paul ici. C'est pas l'apôtre ne prend pas plaisir à faire la liste de leurs défauts. Simplement, ce qu'il veut leur faire comprendre, c'est leur état, pourquoi ils sont comme ça et comment changer, comment devenir meilleur. Alors, reprenons les versets 1 et 2. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. La suite, pardon, du verset. Si tu veux mettre le verset 3. Parce que vous êtes encore animé par votre nature, ou selon les versions, parce que vous êtes encore charnel. Voilà, l'idée c'est ça. Alors vous connaissez un peu, hein, si vous étiez là les précédents dimanches, l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordres. Spirituels, moraux, doctrinaux, c'était la foire. La situation, elle était vraiment explosive dans cette assemblée, il y avait beaucoup de conflits. Et l'assemblée était donc divisée. Alors quand Paul il écrit cette lettre, il a une lourde tâche parce qu'il faut qu'il recadre un petit peu, mais dans l'amour, dans la sagesse, et il n'est pas là pour distribuer les claques, il est là aussi pour dire aux personnes, voilà comment agir. Mais il commence d'abord par un constat, qui est un peu dur, mais qui est réaliste. Il leur dit, voilà, vous êtes quoi aujourd'hui ? Des petits enfants dans la foi. Des petits enfants dans la foi. Et dans tout ce passage, il y a trois parallèles qu'on peut regarder. C'est l'homme spirituel d'un côté, l'homme charnel de l'autre. Et les Corinthiens, malheureusement, c'était plutôt du mauvais côté, quoi. Paul fait également le parallèle entre l'homme et les petits enfants, qui sont encore jeunes et faibles. Et puis, il y a un autre, troisième parallèle, c'est entre la nourriture solide et le lait, entre ce qui est consistant, puisqu'il y a encore le lait du bébé. Ces chrétiens, dit Paul, vous devriez être des hommes spirituels et qui mangent de la nourriture solide. Et le constat leur dit, vous êtes des bébés, charnels, et vous en êtes encore au lait maternel. Voilà le constat. Ils ne marchaient pas selon l'esprit, ils n'étaient pas spirituels, ils marchaient selon la chair, et ils étaient charnels. Alors conséquence, voilà, des petits enfants qui buvaient encore le biberon. Pourtant, imaginez l'église de Corinthe, les amis. Imaginez, c'est une église bâtie par Paul et édifiée par Apollos dans l'enseignement. Waouh ! On aimerait bien, hein, ouais, connaître une église comme celle-ci. Et pourtant, ils tournaient en rond, ils n'avançaient pas. Parce que Paul et Apollos étaient partis, ils étaient livrés à eux-mêmes. Alors là, c'était la foi. Hein. Résultat, ils têtaient encore le biberon de la parole. C'était encore du lait. Alors quand on est bébé, c'est normal de boire du lait. Il y en a qui sont tout petits parmi nous, il y a encore quelques bébés. Il n'y en a pas assez, il faudrait qu'on prie pour des bébés d'ailleurs. C'est normal de boire du lait quand on est bébé. Hein. C'est tout à fait normal, c'est le plan de Dieu et c'est toute la sagesse de Dieu aussi. Le lait maternel, il contient tout ce dont le bébé a besoin pour bien se développer, pour être protégé. Et les laboratoires essaient de copier ce lait-là, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. C'est dans le lait maternel qu'il y a tout. Mais une fois qu'on a passé, qu'on est sevré du lait maternel, qu'est-ce qui doit se passer ? On doit manger des légumes, des petites choses comme ça. Si on alimente un enfant seulement avec du lait, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, il va grandir un peu quand même, mais il va rester tout chétif. Il ne va pas se développer, il va être malade. Donc, l'idée, c'est que dans la parole de Dieu, on doit commencer par les bases, et puis après, on doit commencer à apprendre du plus costaud, quoi. Mais là, Corinthiens, c'était encore du lait, quoi. Si vous êtes un jeune chrétien, attention, sortez d'une lecture trop superficielle de la Bible, hein, allez un petit peu plus loin, étudiez la Bible, grandissez dans le Seigneur, participez aux études organisées dans l'église, dans les églises, etc. Le problème là des Corinthiens, ils devaient être solides, des hommes, spirituels, et ce n'était pas du tout le cas. Alors, ils sont charnels, nous dit Paul. À quoi on voit qu'ils étaient charnels ? Regardez verset 3. L'apôtre dit, « Puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière humaine, charnelle ?» Pourquoi on voit qu'ils sont charnels ? Parce qu'il y a quoi ? Des jalousies, des disputes, des divisions, donc ça chamaille, hein. comme on dit, le chat est parti, les souris dansent, c'est ça, comme on dit en français. Il n'y avait plus de chat dans l'église pour contrôler tout le monde, donc les souris dansent, hein, tout le monde était en train un peu livré à soi-même. Alors, ça venait d'où ? Je l'ai redit tout à l'heure, et on l'a relu. Hein. Parce qu'il y en a qui disaient, ah, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Pierre, moi je suis pour Apollos. Donc, s'attachant à un leader, et puis chacun faisait un petit peu ses groupes dans l'église. Alors, quelles que soient les origines de la jalousie, de la dispute, etc., mais quelles qu'elles soient les origines, en tout cas, c'est toujours le signe d'une conduite charnelle, selon la chair. Et ça, c'est pas bon du tout, c'est pas du tout le signe d'homme spirituel. Alors, est-ce qu'il y avait lieu de se diviser ? Après tout, on peut se dire, oui, mais ils avaient peut-être raison, se taper dessus. Regardez les versets 5 à 9. Donc, il se chamale à propos de Paul et Apollos. Et Paul dit, c'est qui Apollos et Paul, finalement ? Ce sont des serviteurs, hein, ni plus ni moins. Hein. Ce sont quoi ? Ils sont des simples serviteurs, au moyen duquel vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais qui fait grandir finalement ? Ah, c'est Dieu, hein ? Paul y plante, Apollos il arrose, super, très bien, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, c'est Dieu qui donne la croissance. Verset suivant. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Alors, Paul, ici, présente les trois étapes de développement d'une église. Il y a la plantation, l'arrosage et la croissance. Il faut d'abord planter. Et ça, c'est Paul qui s'en est chargé. Il a planté la parole de Dieu, toc, il a créé cette église-là. Après, Apollos, il est venu pour arroser. Il y avait la semence, il est venu faire pousser à présent, il est venu donner l'eau qui était nécessaire pour que la plante ait vie. Ça, c'est l'édification, l'arrosage. Mais la troisième étape, c'est la croissance. Et ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Ça, c'est la part de Dieu. Paul, il leur a présenté le salut. Apollos, il est venu les enseigner. En quelque sorte, Paul, il a un peu donné le lait maternel. Paul, il a donné la nourriture solide. Et à présent, c'est Dieu qui fait croître. Alors, Paul, il dit quoi ? Il dit, c'est moi qui ai édifié l'église, c'est moi qui vous ai amené le salut. Mais ça ne me donne aucun statut particulier, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. J'ai planté, bon, voilà. Ce n'est pas celui qui plante, c'est celui qui arrose. Apollos, il a fait quoi ? Il a arrosé, il vous a enseigné. Bon, ça ne lui confère pas un statut particulier. Hein. Qui c'est qui est important ici ? C'est Dieu. C'est Dieu. Si vous avez un jardin, vous pouvez planter des tomates. Vous pouvez arroser. Mais si Dieu dit, il n'y aura rien... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les amis. Ça ne poussera jamais. Hein. Si ce n'est pas Dieu qui fait grandir, Paul nous dit, ça ne sert à rien. Quoi. Ça sert à rien. Et nous sommes tous au service du Seigneur, des serviteurs inutiles. C'est bien ce que Paul dit ici. Hein. S'il n'y a pas Dieu derrière, tout ce qu'on peut faire, autant Paul, Apollos ou Pierre, on ne sert à rien. Hein. Dieu peut prendre quelqu'un d'autre. Hein. Pas... L'Église ne repose pas sur des hommes, quels qu'ils soient, avec leur sagesse, leur capacité. Hein. S'il n'y a pas Dieu... Il n'y a rien, hein. Rien qui marche. Donc Paul, il leur dit, voilà, Apollos et moi, on est des simples serviteurs. On est égaux tous les deux. Il n'y a pas de différence entre nous, on est au même niveau. Et on n'est rien du tout, parce que celui qui compte, c'est Dieu. Donc il n'y a pas de matière à division. Ne vous divisez pas, tournez-vous vers le Seigneur, c'est là le plus important. Donc les signes d'une conduite selon la chair, c'est les divisions. Les risques, c'est de ne pas grandir dans la foi, c'est de rester chétif. Maintenant, comment ne pas se conduire selon la chair ? C'est là le but de l'épître de Paul. Hein. Il leur dit, vous êtes comme ça, mais voici comment ne pas être comme ça, voici comment changer. Alors, on va regarder versets 10 à 11 du même passage, 1 Corinthiens 3. Paul dit, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voilà, j'ai mis la base. Et un autre construit dessus. Vous avez compris que c'était Apollos. Et là, a priori, il y en avait d'autres. Hein. Apollos était parti. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul avait fondé l'Église, Apollos l'avait édifiée. Maintenant, l'Assemblée devait être en autonomie et se développer par elle-même. Mais Paul, il sait très bien qu'ils étaient encore des petits-enfants et qu'il a entendu par la maison de, je ne sais plus comment c'était, la maison de Chloé, voilà, qu'il y avait des problèmes. Donc, il ne va pas les laisser tout seuls, il va leur envoyer son fidèle assistant. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 17, il va leur dire quelque chose. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Ah, il leur envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Voilà, il leur envoie quelqu'un de confiance. Timothée vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans les églises. Paul, il fait quoi? Ah, il dit, là, ils ne sont pas capables. C'est encore des petits-enfants, ça se bagarre dans tous les sens. Je vous envoie Timothée. C'est mon serviteur, mon enfant bien-aimé, pardon, pas serviteur, enfant bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur, voilà. Donc il va leur envoyer quelqu'un de confiance. Mais là, il en parle au futur. Il vous rappellera. Donc Timothée n'est pas encore arrivé. Donc Paul leur dit, bon, alors en attendant, voici les consignes. Alors Paul, dans ce qu'il leur dit là, on peut découper toujours en trois parties. On va regarder objectif, stratégie et tactique de Paul. Quand on fait un plan ou quand on veut un projet, il y a toujours objectif, stratégie, tactique. Si on prend la Seconde Guerre mondiale, l'objectif c'était quoi? Battre les nazis, les dégager, hein, ils nous avaient envahis, il fallait renvoyer les nazis chez eux. Voilà. La tactique c'était quoi? Et la stratégie c'était quoi? On va faire un débarquement. On va faire un débarquement. Et la tactique c'était faire croire qu'il aurait lieu dans le nord de la France et on va le faire en Normandie. Objectif c'est quoi? Faire partir les nazis. Stratégie, un débarquement. Tactique, faire croire qu'on va le faire au nord et on va le faire en Normandie. Dans le cas de Paul, c'est quoi sa stratégie? Là, quand il fait le constat de tout ça, il se dit, bon, il faut que les Corinthiens, ils arrêtent leur division là. Il faut qu'ils retrouvent la paix et l'unité entre eux. Ça, c'est mon objectif. Je veux que les Corinthiens retrouvent la paix et l'unité entre eux. La stratégie, c'est quoi? Enseigner la parole de Dieu. Ça doit passer par la parole de Dieu. Pas la sagesse humaine, la philosophie, les je ne sais quoi, les réunions de je sais pas quoi. Enseigner la parole de Dieu. Tactique, c'est quoi? Je leur envoie Timothée. Parce que là, tout seul, ça ne va pas marcher. Donc si je veux qu'ils arrêtent leur division, hop, je leur envoie Timothée. Mais Timothée, il n'est pas encore arrivé. Hein. Donc il leur fait l'avertissement du verset 10 dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 10. En attendant que Timothée arrive, ça c'est la tactique, mais pour l'instant elle se met en place. Que chacun fasse attention à la manière dont il construit sur ce fondement. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Jésus-Christ. Donc il y a un fondement basé sur Jésus-Christ, il faut que les Corinthiens s'édifient sur Jésus-Christ. Et lui leur dit... Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ah, vous êtes en autonomie, Timothée n'est pas encore là. Prenez bien garde à la manière dont vous allez bâtir dessus. Alors cette partie-là, c'était plutôt pour les responsables de l'Église, ou ceux qui aspiraient à exercer des responsabilités. Mais ça nous parle à nous aussi, hein, dans nos églises où on se trouve. Il y a des gens parmi nous qui vont repartir, qui sont en vacances ou de passage. Donc si vous êtes responsable dans votre église ou si vous aspirez à exercer des responsabilités, ce passage nous parle aussi. Hein. Dans notre service pour le Seigneur, on a vu, on est des serviteurs inutiles. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Parfois, il appelle. Il pourrait prendre quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui choisit. On doit se dire, quelle est ma motivation quand je sers? Croyez-moi, les amis, servir dans l'église, ce n'est pas forcément de tout repos. Hein. Mais quelle est la motivation? C'est quoi? Est-ce que je le fais pour les Corinthiens, pour l'église de Corinthe? Donc pour mon église, est-ce que je l'ai fait pour les âmes qui étaient dans cette église-là, pour qu'ils s'édifient, ou est-ce que je le fais pour moi, pour dire... Parce qu'eux, on sent que c'était plutôt le genre à tirer un peu la couverture à chacun. Quoi. Tout le monde voulait montrer sa sagesse et sa philosophie, sa grande intelligence, quand même l'impression qu'ils jouaient chacun pour eux. Quoi. Est-ce que vous savez que c'est la Coupe du Monde de football féminin en ce moment?
Non.
Carton jaune. Je vais profiter de la Coupe du Monde de foot féminin, c'est la finale ce soir. On va employer la métaphore du foot. Objectif, stratégie, tactique. L'objectif, c'est quoi, une équipe de foot? Voilà, gagner la Coupe du Monde, voilà, battre l'adversaire, gagner la Coupe du Monde. La stratégie, ça va être quoi? Marquer le maximum de buts et en prendre le moins possible. Idéalement, il faudra en prendre moins qu'on en marque, sinon, problème. La tactique, c'est quoi? Comment on va faire ça? On va faire une équipe, on va placer des joueurs à chaque poste, et on va faire en sorte que chacun joue ensemble en se passant le ballon et de façon collective. C'est ça le principe du foot. Hein. Eh bien, on va regarder ça. Pour une église, c'est comment? Vous allez voir. Objectif, stratégie, tactique. Vous allez voir, c'est la même chose. Objectif, c'est quoi? Battre l'adversaire, comme au foot. L'adversaire, c'est qui? Satan. On le sait, on doit battre l'adversaire. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Hein. C'est que la parole de Dieu soit... Que Christ soit proclamé au monde entier. Hein. La tactique, ça va passer par quoi? Comment il a fait, Paul? Prédication de la parole. Hein, c'est l'essentiel d'une église. Hein. Ça doit passer par ça. La prédication de la parole pour le salut des âmes et l'édification des saints. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ça doit être pour sauver les âmes. Une fois qu'elles sont sauvées, pour les édifier. Donc, le lait maternel et la nourriture solide. D'accord ? La stratégie, c'est quoi ? C'est comme au foot. Une équipe. Chacun à son poste, et on joue tous ensemble, et on se passe le ballon. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, chacun a un poste différent déjà dans cette équipe. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde au même poste, c'est évident. Voilà. Donc, imaginez une équipe de foot où il y aurait trois gardiens de but. Il y aurait un souci. Ou s'il n'y avait pas de gardien de but, il y aurait un souci. Donc, il faut qu'à chaque poste dans une église, il faut qu'il y ait des personnes en place. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours les meilleurs, hein, ce n'est pas toujours les meilleurs du monde, mais bon, le Seigneur, on est des serviteurs inutiles, on est tous incapables d'être au niveau du Seigneur, on est très très loin de son niveau d'exigence. On fait, voilà, le Seigneur donne à chacun selon ce qu'il attend de lui en fonction de l'appel qu'il lui a donné, mais il ne faut pas croire qu'il faut être waouh, tout là-haut. Hein. C'est les capacités que le Seigneur donne, ce n'est pas des capacités que chacun parle soi-même. Hein. Donc, chacun a son poste. Imaginez donc une équipe où il y aurait trois gardiens de but ou pas de gardiens de but, on aurait des soucis. Ensuite, chacun a sa place. S'il y a un gardien de but, il ne va pas les jouer attaquants encore. Sinon, il y aura un problème. On va, si on faisait par exemple une équipe où chacun pouvait changer son poste, etc., ça serait la pagaille, ce serait le désordre, et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, une équipe avec chacun a sa place et chacun garde sa place. Et ensuite, on joue tous ensemble. Dans une église, c'est ça. Si tout le monde jouait pour soi-même, imaginez le truc. Vous recevez le ballon, le truc, vous dites « Moi, mon but, c'est d'être homme du match. Je veux absolument être celui qui brille et marquer tous les buts. » Regardez le football moderne, les amis, c'est ça. On a regardé un match hier soir, ils ont passé 90 minutes à se taper dessus. Je ne donne pas aussi. Chili-Argentine, finale de la Copa América. Deux cartons rouges, cinq cartons jaunes. Des coups francs du début à la fin, enfin, c'est pas du foot ça, les gens ils se tapent dessus. Dès qu'il y en a un qui a le ballon, ils foncent droit au but pour aller marquer le but. Et ça, quand on. J'avais préparé le message, donc voilà, j'ai regardé le match aussi de cette façon-là, mais c'est pas du tout un sport collectif le foot aujourd'hui. Chacun veut briller, donc ça c'était le problème des Corinthiens. Tout le monde voulait dire, ah, groupe, moi je suis de lui, et moi je suis le plus intelligent, le plus grand, etc. Quand je prêche ce matin, les amis, je vous rassure, je vise personne, je ne parle à personne, je n'oriente vers personne. C'est pas le but, hein. Je prends juste l'image du texte avec l'église de Corinthe et le match de foot d'hier soir. Ne pensez pas que je suis en train de... Non, pas du tout. Est-ce que vous vous rappelez qu'on était champion du monde l'année dernière? Oui, merci pour ceux qui ont dit oui. L'équipe de France qui est championne du monde l'année dernière, croyez-moi, les amis, il n'y avait pas beaucoup de stars dans l'équipe, hein. C'était pas que des ballons d'or et des joueurs 5 étoiles, quoi. Il y avait des jeunes, mais c'était quasiment leur première sélection, quoi. C'était une équipe, sur le papier, c'était la plus jeune, déjà. Peut-être la plus inexpérimentée. Il y avait une star ou deux, mais enfin, bon, ça fait pas une équipe. Ils sont champions du monde. Comment ils font pour être champions du monde, battre l'Allemagne, le Brésil... Pardon, les amis. Salut, Diane. Voilà, vous allez repartir, les amis, on pense à vous. Voilà. Bon retour au Brésil. On a battu des grandes équipes, on a été champion du monde. C'est le travail du sélectionneur. Hein. Il a fait un travail remarquable, il a mis tout le monde. Il a pris chacun avec ses capacités, ses faiblesses. Il en a fait un collectif. Ça a bien tourné, ils ne sont pas énervés, ils ont tenu leur poste. Boum, ils ont été champions du monde. Quoi. La stratégie, elle était là, hein. La technique était bien en place. Quoi. Alors c'est pour ça que Paul dit, chapitre 1, verset 10, d'un Corinthien, on revient, on remonte un tout petit peu. Paul avait dit un petit peu plus haut aux Corinthiens, « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée. » Voilà, tous le même langage, les amis, tous. Un même langage, un même esprit, un même sentiment, un même ballon, pour tous, un même but, objectif, une même stratégie, une même tactique. Paul dit, faites tout entre vous, faites tout en collectif, la même pensée, le même langage, même esprit, même objectif stratégique, etc. etc. Alors donc, je redis, hein, si vous faites partie des leaders de votre assemblée, quelle qu'elle soit, je vise personne, etc., ou si vous aspirez à le devenir, posez-vous les questions, deux questions. Dans un premier temps, quelle est votre motivation? Est-ce que c'est vraiment... je me mets au service du collectif et je veux qu'on gagne la Coupe du Monde? Ou est-ce que je vais être ballon d'or comme hier soir et que je tire un petit peu le ballon pour moi, quoi? Si on fait ça, c'est qu'on est, on marche selon la chair, donc on est charnel. On n'est pas spirituel. Pareil, pour savoir si vous êtes appelé, la meilleure façon de savoir, c'est comme le foot, c'est pas vous qui allez voir le sélectionneur en disant « Salut, je vais être attaquant !» Attends, je vais faire mon équipe. C'est moi qui vais appeler, n'est-ce pas? Je vais choisir celui que je choisis à chaque poste. C'est pas vous qui allez voir le sélectionneur en disant « Salut Didier Deschamps, je vais être attaquant. » Bah, c'est arrivé, hein. Et Didier Deschamps a fait une jolie lettre en disant « Bon, bah, t'es gentil, mais c'est moi qui fais l'équipe. Hein. » Donc voilà. Laissez le sélectionneur vous appeler, c'est le Seigneur qui doit choisir et vous appeler. C'est là où vous saurez si votre appel vient de vous ou des dieux. Il vaut mieux que ce soit sur Dieu, comme ça ce sera spirituel et pas charnel. Donc première chose, quelle est ma motivation? Est-ce que je me mets au service du collectif ou pas? Deuxièmement, est-ce que mes motivations, mes projets viennent de Dieu ou du diable? Alors ça c'est un peu fort, vous pourriez vous dire, ah, si je veux faire quelque chose pour l'Église, ça vient de Dieu. Si je fais quelque chose pour le peuple de Dieu, ça vient de Dieu. Ah, pas forcément. Regardez avec moi, regardez un passage dans l'Ancien Testament. C'est David, dans 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 à 4. David, grand roi en Israël, homme spirituel s'il en est, bien plus que la grande majorité d'entre nous et moi le premier. 1 Chronique 21, verset 3. On va lire jusqu'au verset 4. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez-y, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, puis faites-moi un rapport afin que je sache combien ils sont. » Voilà, je vais faire l'état des lieux, combien se constitue mon peuple. Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, mon Seigneur le roi. Sont-ils pas tous tes serviteurs ? Pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela ? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité ?» David, il fait quoi ? C'est pour le peuple de Dieu. Il compte le peuple de Dieu. Est-ce que c'était interdit par Dieu ? Regardez Nombre, chapitre 1, versets 1 à 3. Livre des Nombres, chapitre 1, versets 1 à 3. L'Éternel parlait à Moïse dans le désert du Sinaï, dans l'attente de la rencontre, premier jour du deuxième mois, deuxième année après la sortie d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée à Aaron et toi. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu est dit, allez-y, vous allez compter tout le nombre du peuple là, pour qu'on sache combien ils sont, pour qu'on sache le nombre de soldats. David, il dit quoi? Il envoie Joab et dit, c'était Joab, hein, et il dit, vas-y, va compter le nombre pour voir combien on est, parce qu'il a préparé ses guerres et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait ce que Dieu faisait, je vois pas où est le truc. Alors, il y avait un passage qui dit qu'il y avait des conditions à respecter, il fallait payer un impôt, etc. Mais le contexte n'est, semble pas, on ne voit pas que c'est ce problème-là, parce que c'est pas évoqué. Joab dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Joab aurait pu lui dire, tu sais qu'il faut payer un impôt pour qu'il n'y ait pas de problème. Hein, parce que si on ne payait pas l'impôt, il y avait un problème, en cas de dénombrement. Mais lui dit, non, non, pourquoi tu veux faire pécher Israël, etc. Donc, ce n'était pas une pratique interdite par l'Éternel, ça. L'Éternel le faisait. Mais quand il va compter son peuple, David, en fait, on comprend qu'il a un, c'est un manque de foi, en fait. C'est parce qu'en fait, il va aller compter le nombre de soldats pour que ça... En fait, il se repose sur la quantité, plutôt que sur Dieu lui-même. C'est Dieu qui lui avait donné toutes les victoires. Et lui se disait, bon, en fonction du nombre, je vais être rassuré un peu. On voit que le problème est là. Mais regardez, il fait quelque chose pour le peuple de Dieu, il fait quelque chose que Dieu a déjà fait. Et pourtant, la différence entre les deux passages, c'est quoi? Dans le passage dans Nombre, quand c'est Moïse, qui est-ce qui donne l'ordre de faire le recensement? C'est Dieu. L'Éternel dit à Moïse. Et le passage qu'on a lu avec David, c'est qui? C'est Satan. Satan excita, hein, il provoqua. Donc, même peuple, juif, même pratique, peuple de Dieu, pratique de recensement, mais deux origines différentes. Une fois, c'est Dieu qui envoie, l'autre fois, c'est Satan qui envoie. Des fois, quand on fait des choses dans l'Église, on dit, moi, je fais ça pour l'Église, blablabla, et on se dit, ça vient de Dieu. Ah, c'est peut-être le diable, finalement, qui essaie de semer. Vous savez, la zizanie, vous connaissez ce passage où il y a de la bonne semence, et puis il y a l'adversaire qui passe pendant la nuit, puis qui, hop, là, dans la moisson, qu'est-ce qu'il va mettre? Des herbes sales et tout pour semer la zizanie. D'où vient l'expression, d'ailleurs. Donc, quand on fait quelque chose dans l'Église, et je vise personne, encore une fois, hein, c'est la parole de Dieu, est-ce qu'on fait tout pour le Seigneur? Est-ce que ça vient du Seigneur? Ou est-ce que dans nos attitudes ou dans nos actions, dans nos objectifs, etc., est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient parfois venir du diable pour... Parce que ça donnait quoi, la conséquence, chez les Corinthiens? Dispute, division, querelle. Et on a vu que quand il y avait dispute, division, querelle dans une assemblée, ça ne pouvait venir que du diable et de comportements charnels. Alors, dans tout ce qu'on fait dans nos églises, on doit toujours se poser les bonnes questions. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Premièrement, je vais faire ça dans l'église. Est-ce que ça va glorifier le Seigneur d'abord? Si c'est oui, alors on peut passer à la question suivante. Est-ce que ça va édifier l'église? Est-ce qu'on va passer du lait maternel à la nourriture solide? Oui. On peut passer à la troisième question. Est-ce que ça va servir à tous les frères et sœurs là? Est-ce que ça va être au service du collectif ou au service de l'individualité? C'est oui? Bon. Dans ces cas-là, si on a deux ou trois questions, ça vient de Dieu. Si ça glorifie le Seigneur, si ça édifie l'Église et c'est tous les frères et sœurs, foi, ça vient du Seigneur. Alors, dans tout ce qu'on fait ou dans tout ce qu'on dit dans l'Église, on doit toujours rechercher qu'un but, les amis, l'union et pas la division. Et je suis désolé d'insister, mais c'est le passage dans Corinthiens qui nous y emploie. Il dit, voilà, il y a des querelles parmi vous, unité, unité, unité. Et dans tout ce qu'on fait, mes amis, on doit toujours rechercher l'union et jamais la division. Si on veut diviser, c'est jamais bon et vous savez que ça ne viendra jamais du Seigneur. Même si vous pensez avoir de bonnes motivations, hein. David, il est convaincu que ses motivations certainement étaient bonnes, hein. Mais c'était Satan qui était en train d'exciter son cœur. Donc, un même langage, un même esprit, un même sentiment, un même ballon, un même objectif, une même stratégie, une même tactique. Et le but, c'est que nous posions tous ensemble le seul fondement qui doit être posé, à savoir Jésus-Christ. C'est ce que disait l'apôtre. Le but de l'Église, c'est quoi? C'est d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul avait dit, ça c'est la sagesse de Dieu. Prêcher la croix, Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu. Donc c'était le commandement qu'ils avaient reçu et que nous avons encore aujourd'hui. Mais les Corinthiens s'étaient trompés d'adversaire. En fait, ils avaient une équipe en face d'eux et eux, ils jouaient contre eux-mêmes. Parce qu'ils chamaillaient, ils n'arrivaient pas à se passer le ballon et à jouer tous ensemble, quoi. Donc Paul, il vient siffler la fin de la récréation, fin du match. Stop! Vous arrêtez. Voilà, il fait sa lettre, il dit, voilà, je vais vous envoyer Timothée. Timothée, il va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il va calmer les choses, mais l'apôtre voilà, leur signifiait que leur comportement, c'était pas le bon. Quoi. Alors attention à nous aussi, hein, à ne pas servir l'ennemi dans tout ce qu'on veut faire dans l'église, etc. On peut parfois penser bien faire, mais si on... Voilà, attention à tout ce qu'on fait, toujours rechercher l'union et jamais la division, parce que sinon, c'est le signe d'une conduite charnelle, et c'était ce que Paul disait justement ce matin aux Corinthiens. Alors pour résumer, voilà, on a vu la différence entre homme charnel, homme spirituel, celui qui marche selon la chair, celui qui marche selon l'esprit. Les signes, c'était quoi? Bah, quand on marche selon la chair, conséquence, il y a des divisions, c'est la pagaille. Les risques, c'était quoi? Bah, c'est de ne pas grandir dans la foi et de rester un tout petit bébé. Donc ça, c'était plutôt individuel. les signes qui montraient donc que les Corinthiens étaient encore charnels, c'était les divisions. Et on avait vu aussi que quel que soit le rôle, on peut planter, on peut semer, on peut évangéliser, on peut faire la cuisine, le ménage, le truc, le machin. On est tous des serviteurs inutiles et on est tous au même niveau. Il n'y en a pas un plus qu'un autre. Ce qui est important, c'est Dieu. C'est lui qui fait croître. Le reste, c'est la part de chacun. Et donc les motivations qui doivent être les nôtres au service du Seigneur, c'est tenir notre rôle, remplir le rôle que le Seigneur nous a donné, ne pas prendre le poste d'un autre, et puis surtout jouer collectif, ça c'est valable pour tout le monde, jouer collectif pour se mettre au service des autres, pas chacun balle au pied pour être le meilleur homme du match. Le but, c'est de toujours rechercher au sein de l'Assemblée l'union et jamais la division. Je vous invite à prier, mes amis, pour finir. Seigneur, l'union et pas la division, là ce que tu disais aux chrétiens de Corinthe. Seigneur, cette église avait été bâtie par Paul, édifiée par Apollos, et c'est toi qui as fait croître. Et le plus important, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui fais croître. Peu importe notre rôle dans l'église, nous sommes tous des serviteurs inutiles. Peu importe la place de chacun, Seigneur, le plus important, c'est notre état d'esprit et notre motivation, Seigneur. Que notre motivation, Seigneur, soit toujours pour toi, pour te glorifier, pour se mettre au service les uns des autres, Seigneur. Et que nous soyons toujours fidèles dans notre ministère, Seigneur, en attendant ton appel, la place que tu nous donnes et ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Peu importe si nous sommes titulaires, remplaçants, Seigneur, ou pas appelés sur la feuille de match, l'important c'est de faire ta volonté, Seigneur. Et si tu nous tiens à l'écart, eh bien c'est ta volonté aussi, Seigneur. Et nous devons aussi l'accepter. Seigneur, nous voyons à travers cette église de Corinthe, ces grands frères qui nous ont été aussi donnés comme exemple, Seigneur, comme Andou l'avait dit ici, Seigneur, c'est vrai que c'est un exemple pour nous et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, Seigneur, nous avons aussi notre lot dans une mauvaise attitude parfois. Seigneur, aide-nous à toujours regarder à toi et à toi seul et à regarder à l'Assemblée et à l'Église, Seigneur, au bien des frères et sœurs. Nous t'en prions, Seigneur, aide-nous à être selon ce que tu attends de nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.